Radio Kapi.
Le député provincial élu du territoire de Beni au Nord Kivu, Émile Saïdi, dit saluer les efforts que fournissent les FRDC et la police pour le retour de la paix et la restauration de l'autorité de l'État en RDC. Il s'est exprimé ainsi ce 17 mai, journée dédiée aux forces armées et à la police de la RDC. Des violents affrontements hier soir entre les membres du groupe Mobondo et les policiers ont fait plus de 10 morts au village Salapamba, secteur de Wamba, Fatundu, territoire de Bagata, province du Kwilu. 6 de ces bandits ont aussi été appréhendés. Bruno Le Marquis est l'invité de ce journal. Le représentant adjoint du secrétaire général des Nations Unies et coordonnateur humanitaire à RDC est à Kananga où il conduit une mission interagence sur l'impact du Fonds pour la consolidation de la paix du secrétaire général des Nations Unies. Bonsoir à tous. Au micro, Noéla Luzitu Kabambi. Ce mercredi 17 mai, c'est la journée dédiée aux forces armées et à la police de la République démocratique du Congo. Au Nord Kivu, le député provincial élu du territoire de Beni, Émile Saïdi Balikwisha, salue les efforts que fournissent les FRDC et la police pour le retour de la paix et la restauration de l'autorité de l'État. Pour lui, c'est aussi une occasion de saluer la volonté du gouvernement dans l'encadrement des militaires, mais aussi de l'interpeller à faire mieux pour que les forces armées de la RDC pacifient l'ensemble du territoire national, particulièrement sa partie est déchirée par l'insécurité. Le député Saïdi Balikwisha est au téléphone de Marc Marofimbo.
La journée du 17 mai, ici à la République démocratique du Congo, est reconnue comme une journée dédiée aux soldats congolais. Pour cette journée, nous personnellement, nous rendons hommage à tous les militaires FARDC, à tous les éléments de la police nationale congolaise qui ne ménagent aucun effort dans les conditions les plus difficiles et déplorables pour imposer la paix ici en province du Nord Kivu. En français, on dit la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Et nous croyons que le résultat de votre travail à Bounagana, à Kiwanja, à Kichanga, en Beni territoire, précisément dans la vallée de Mwalika, à Irumu, à Mambasa, à Chani Chani, à Beu Manyama, à Samboko, et j'en passe, est le fruit de la façon dont vous êtes encadré par le gouvernement et on ne peut pas en dire autre chose. Mais de toutes les façons, nous sommes fiers de vous et nous vous souhaitons un bon travail.
Dans le territoire de Beni, un groupe de Mai Mai non encore identifié a attaqué tôt ce mercredi matin et pour la deuxième fois en moins d'une semaine la position des FRDC à Kiondo. Le bilan fait état de 4 morts dont 2 militaires FRDC et 2 éléments Mai Mai. Une paralysie des activités a été signalée dans cette commune où l'armée appelle la population au calme car la traque de ces Mai Mai continue. En République démocratique du Congo, 495 violations et atteintes aux droits de l'homme ont été documentées au mois de mars dernier par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme Kinshasa. Ces chiffres contenus dans le rapport sur les principales tendances des violations des droits de l'homme au mois de mars représentent une augmentation de 12% par rapport au mois de février qui comptait environ 441 violations et atteintes. Les membres des groupes armés viennent en tête sur l'ensemble du pays avec plus de 300 cas des violations et atteintes enregistrées au cours du mois d'avril dernier. Esther Ndalafina.
Selon le rapport du Bureau conjoint des droits de l'homme, 420 violations et atteintes aux droits de l'homme ont été documentées dans les zones affectées par les conflits en mars 2023, une augmentation significative par rapport au mois de février et janvier dernier. Le Bureau conjoint des droits de l'homme justifie cette augmentation par le nombre élevé des victimes d'exécutions sommaires, celles de mauvais traitements et de violences sexuelles. Le Nord Kivu demeure la province ayant enregistré le plus grand nombre de violations et atteintes, soit 206 cas, suivi par les provinces de l'Ituri avec 103 violations et atteintes, du Tanganyika ainsi que du Sud Kivu. Les membres des groupes armés viennent en tête sur l'ensemble du pays avec 376 violations et atteintes enregistrées, suivi des agents de l'État avec 158 cas. Toujours au cours du mois de mars dernier, la section de la protection de l'enfant de la MONUSCO a documenté 190 violations graves des droits de l'enfant dans le cadre des conflits armés qui ont pris la forme de l'enlèvement suivi par le meurtre, la mutilation, le recrutement et l'utilisation des enfants dans les groupes armés.
Retour au Nord Kivu. Les acteurs sociaux coutumiers du groupement Mufunishanga, chefferie des Baoundé, territoire de Masisi, acceptent finalement le déploiement d'une base temporaire des casques bleus de la MONUSCO dans la cité de Bweremana, à environ 50 km au sud de Goma. C'est à la limite entre le Nord et le Sud Kivu. Ces acteurs l'ont fait savoir hier mardi à la délégation de la MONUSCO au cours d'un échange avec la dite mission à Bouérimanamem. Ils promettent également d'accompagner la MONUSCO dans son mandat de la protection des civils. Comment les deux parties sont-elles arrivées à une telle conclusion? Gabriel Ouamenia pour le reportage.
Après de longues heures d'échanges houlés, ponctués de questions et réponses sur le mandat de la MONUSCO entre la délégation de celle-ci et les représentants des diverses structures locales, dont les femmes, la jeunesse, les comités des déplacés ainsi que les acteurs sociaux coutumiers, les zones d'ombre ainsi que les sentiments d'animosité contre le déploiement d'une base temporaire des casques bleus à Bouérimanamem se sont dissipés. Floribert Buholo, président de la société civile locale.
Il y a beaucoup d'intox, la population est manipulée, mais avec les réponses que la MONUSCO a apportées, donc la population a compris que la MONUSCO a encore un rôle à jouer. Nous disons la MONUSCO est la bienvenue ici à Bouérimanamem, dans le territoire de Massissi.
De son côté, le chef de groupement de Mufuni Changa souhaite que la MONUSCO soit flexible et collaborative. D'abord étroitement avec les autorités coutumières comme d'antan, Moiroro François. Nous n'en voulons pas à la MONUSCO, nous aimons la MONUSCO. Ils appelaient les chefs de groupement, les chefs de village et ont donné toute la situation. Cela nous aidait car ils faisaient les mouvements et voir ce qui marche et ce qui ne marchait pas. Rappelons que l'objectif d'un déploiement d'une base temporaire de casques bleus à Bouérimanamem fait suite à la fragilité de la situation sécuritaire dans cette partie de la province. Goma, Gabriel Ouamenia, Radio Okapi.
Plus de 10 morts et un blessé grave, c'est le bilan des affrontements violents dans la soirée d'hier mardi entre les éléments du groupe Mobondo et les policiers au village Salapamba, situé dans le secteur de Wamba Fatundu, territoire de Bagata, province du Kwilu. Le porte-parole est chargé de la communication de la PNC Kwilu, qui livre l'information à la presse, précise que ces morts sont comptés parmi les assaillants qui ont fait irruption dans ce village. Selon le colonel Camille Atungale, la police a aussi mis la main sur au moins 6 d'entre ces bandits et les autres se sont répliés au village Falio, territoire de Kwamous, dans la province de Maïndombe. Le colonel Camille Atungale, porte-parole de la police du Kwilu, est au micro de Irène Boma.
Effectivement, c'était au niveau du village Salapamba où il y a eu irruption, n'est-ce pas, des assaillants communément appelés Mobondo, hein, avec les armes blanches, des armes calibre 12 et autres, des Mobondo qui comptent également sur leur fétiche. Et le mardi 16 mai de cette année, bien sûr, ils ont fait irruption au village Salapamba. C'est un village du secteur Wamba dans le territoire de Bagata. Arrivés sur place, ils ont créé la panique et il y a eu un affrontement sanglant avec nos policiers déployés là-bas. De cet affrontement-là, le bilan fait état d'une dizaine d'assaillants tués et un policier grièvement blessé. Et les policiers ont quand même réussi à capturer 6 de ces assaillants-là qui seront certainement transférés ici à Bandundu pour répondre de leurs actes. Ces assaillants se sont retranchés, ils ont fui, c'est-à-dire leurs rescapés, ont fui vers le village Falio. C'est un village du territoire de Kwamutu dans la province voisine du Maïndombe. Et vous savez que cette partie-là, c'est un peu une intersection entre la ville-province de Kinshasa, une partie de la province du Maïndombe, du Kwango et du Kwilu.
Nous vous le disions dans le sommaire, une importante délégation des agences des Nations Unies, des donateurs et des représentants du gouvernement de la RDC séjourne à Chikapa au Kasaï depuis hier mardi et pour 4 jours. Selon le coordonnateur humanitaire Bruno Lemarquis, qui est à la tête de cette mission, les bailleurs de fonds ont choisi cette année 2023 pour visiter la RDC, notamment pour évaluer l'impact du fonds de consolidation de la paix, également dans le cadre du retrait progressif de la MONUSCO. Les propos de Bruno Lemarquis ont été recueillis à Chikapa par Jean-Désiré Kanyama.
Nous sommes ici dans le cadre d'une mission avec un groupe, ce qu'on appelle le groupe d'amis des bailleurs de fonds du Fonds de consolidation de la paix du secrétaire général. C'est un fonds qui est actif depuis un certain nombre d'années en RDC et donc il est financé par des bailleurs de fonds et donc des représentants de ces bailleurs de fonds visitent quelques pays chaque année et cette année ils ont choisi de venir en RDC. Dans notre mission, nous avons des représentants de la Belgique, de la Suisse, de la Finlande, du Danemark, de la Norvège, du Royaume-Uni, de l'Allemagne et de l'Union européenne. Le Canada et l'Arabie saoudite devaient également venir, mais les représentants n'ont pas pu se joindre. Et puis, nous sommes venus également avec de ce qu'on appelle l'équipe pays des Nations Unies, donc des chefs d'agence, où le Fonds de consolidation de la paix a beaucoup investi ces dernières années. C'était Kasaï Central, Kasaï et Tanganyika.
Alors, la particularité de la présence des donateurs est due à quoi ?
Alors bien sûr, ils veulent voir l'impact du Fonds de consolidation de la paix en sigle, donc c'est le PBF.
Au Sud Kivu, les équipes d'urgence des Médecins sans frontières dans la province du Sud Kivu ont pris en charge 1063 patients dans les hôpitaux de Minova et Numbi. Des patients composés principalement d'enfants malades de rougeole et de choléra. C'est dans le cadre d'une réponse d'urgence mise en œuvre par MSF pour soutenir les autorités sanitaires dans la zone de santé des Minova avec l'arrivée de 80 000 déplacés du Nord Kivu. Ces chiffres ont été donnés au cours du point de presse organisé hier à MSF Espagne Murumba à Bukavu. Ulrich Crépin, adjoint au chef de mission MSF Sud Kivu et chargé des opérations humanitaires, en parle au micro de Rachel Kessembangu.
L'objectif, c'est de rappeler la situation aujourd'hui dans la zone de santé de Minova. De dire à la communauté humanitaire, aux autorités, que nous avons une population dans cette zone de santé qu'il faut continuer à assister. Là où l'accès est très difficile, notamment dans la partie haut plateau de la zone de santé de Minova, il faut y arriver, il faut continuer à monitorer les besoins humanitaires et à adapter les réponses selon ces besoins. Pour pallier à cela, chaque jour, nous continuons de renforcer notre évaluation pour être à mesure de détecter à temps les besoins humanitaires. Nous assistons à tout ce qu'on appelle les réunions de coordination des humanitaires, que ce soit au niveau provincial, au niveau de la zone de santé. Nous parlons avec les autorités pour que vraiment les efforts puissent être consentis et de répondre à tous ces besoins. Et bien sûr, nous, on reste aujourd'hui très focalisés sur la prise en charge médicale des personnes les plus vulnérables, notamment les cas de rougeole, les enfants de moins de 15 ans, et aussi répondre à ce qu'on appelle la prévention de choléra, qui, je pense, que reste une composante très importante.
Colère des agents auxiliaires de la société NRK, Énergie du Kassai, qui commercialise l'énergie électrique en Mbujimayi. Ces agents auxiliaires réclament le paiement des arriérés de près de 35 mois de salaire. Ils suggèrent aussi le départ de leur comité de gestion qu'ils accusent de mégestion. Le directeur général de NRK, lui, parle des moyens limités qui ne permettent pas à la société de faire face aux multiples charges dont le paiement des salaires de ses agents à cause de la vétusté des machines au niveau de la centrale hydroélectrique. Esther Ndalafina.
Les agents auxiliaires de l'entreprise Énergie du Kassai ont jeté depuis ce mardi quelques tracts dans les installations de la société. Ils réclament le paiement des arriérés de près de 35 mois, comme l'indique l'un d'eux.
Nous avons un problème de la mégestion. Nous déplorons plus de 35 mois d'impayement. Nous déplorons aussi le manque de volonté de toutes les autorités qui nous dirigent.
Contactés, les directeurs généraux de NRK parlent des faibles moyens qui ne leur permettent pas de faire face aux charges de la société, dont le salaire du personnel.
Les recettes que nous recevons, 10 dollars, des factures, 20 dollars, 50 dollars, avec toutes les charges que nous avons, la maintenance de ces vieilles machines-là, du personnel, les fiscs et tout ça, on n'arrive pas à satisfaire toutes ces charges-là. Même à 50%, si bien que le salaire tombe aussi à compte-gouttes.
Selon Victor Kabongo-Kavitch, les subventions promises par le Premier ministre Samalou Kondé peuvent aider à relever les défis de l'entreprise.
Nous sommes en train de faire les démarches pour avoir cette subvention-là et redresser un peu le niveau de production, ce qui va ipso facto augmenter nos recettes.
Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Dans la province du Maniema, la campagne de sensibilisation environnementale sur la protection de la biodiversité menée par l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN Kindu, commence à produire des effets positifs. Au bout de quelques jours de cette sensibilisation, deux chimpanzés ont été remis volontairement par la communauté à l'ICCN. Le chef de site salue cette volonté de la population. Radar Nichou invite ceux qui résistent à ne pas atteindre la rigueur de la loi. Il est au micro de Florence Kiza.
Les gens ont commencé à remettre, puisque depuis que je suis là, je lançais une campagne de sensibilisation pour avertir déjà les gens que détenir les chimpanzés, c'est une interdiction formelle par la loi de notre pays. Alors, je n'ai pas voulu être trop brutal au départ, puisque j'ai constaté que la plupart des gens le font par l'ignorance de la loi. Mais vous connaissez que aussi, nul n'est censé ignorer la loi. Mais pour le moment, j'ai pensé donner une période de grâce pour que les gens remettent les chimpanzés après la sensibilisation. C'est ainsi que les gens commencent à donner. Et depuis que nous avons commencé la sensibilisation, il y a deux qui sont déjà remis. Un qui est venu du côté Sankourou et un autre que nous avons reçu ce matin qui venait du village tout proche de Kindu ici. Nous connaissons déjà les maisons où il y a des espèces totalement protégées qui sont gardées. Pour le moment, je pense que nous avons encore une marge d'un mois. Celui qui remettra, nous allons le remercier et le laisser partir. Mais après un mois, ce sera maintenant nous-mêmes qui irons chercher avec tout ce qui va s'en suivre.
Actualité internationale.
La mission de paix de 6 dirigeants africains en Ukraine et en Russie, évoquée hier mardi par le président sud-africain Cyril Ramaphosa, devrait se concrétiser dès le début du mois de juin prochain, a annoncé ce mercredi un responsable des affaires étrangères. Cyril Ramaphosa avait annoncé la veille que Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky avaient accepté de recevoir la mission et les chefs d'État africains de 6 pays, Afrique du Sud, Sénégal, Zambie, Congo, Ouganda et Égypte, dans leurs capitales respectives. Proche du Kremlin depuis l'époque de la lutte contre l'apartheid, l'Afrique du Sud a toujours refusé de condamner l'invasion de l'Ukraine, affirmant rester neutre et vouloir privilégier le dialogue. Cette mission africaine permettrait à Pretoria de réaffirmer sa neutralité alors que beaucoup de voix s'élèvent à l'international comme à domicile pour critiquer son positionnement jugé trop proche de Moscou.
L'invité.
L'invité de ce journal, c'est le représentant adjoint du secrétaire général des Nations Unies et coordonnateur humanitaire à RDC, depuis Chikapa au Kasaï, où il est à la tête d'une mission interagence. Bruno Lemarquis parle de l'impact du Fonds pour la consolidation de la paix du secrétaire général des Nations Unies, le PBF. Il s'entretient avec Jean-Désiré Kanyama.
Bruno Lemarquis, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qui explique la présence de cette importante mission interagence à Chikapa, dans la province du Kasaï?
Alors, nous sommes ici dans le cadre d'une mission avec ce qu'on appelle le groupe d'amis des bailleurs de fonds du Fonds de consolidation de la paix du secrétaire général. C'est un fonds qui est actif depuis un certain nombre d'années en RDC, il est financé par des bailleurs de fonds, et donc des représentants de ces bailleurs de fonds visitent quelques pays chaque année, et cette année ils ont choisi de venir en RDC. Donc, dans notre mission, nous avons des représentants de la Belgique, de la Suisse, de la Finlande, du Danemark, de la Norvège, du Royaume-Uni, de l'Allemagne et de l'Union européenne. Le Canada et l'Arabie saoudite devaient également venir, mais les représentants n'ont pas pu se joindre. Et puis, nous sommes venus également avec des membres de ce qu'on appelle l'équipe pays des Nations Unies, donc des chefs d'agence des Nations Unies.
Pourquoi Chikapa et non, par exemple, le Kananga, qui avait été secoué, vous le savez, par la milice Kamuinansapu?
Bon, on avait le choix entre Kalimi, Kananga, Chikapa. Les collègues ont discuté avec les autorités, avec différents partenaires. On a fait le choix de Chikapa, mais les collègues de Kananga sont venus ici à Chikapa nous rejoindre. Donc on a aussi une discussion qui est plus large que le Kasaï, ça couvre aussi Kasaï central. Et donc nous sommes ici depuis aujourd'hui à Chikapa pour 4 jours. Le Fonds de consolidation de la paix a beaucoup investi ces dernières années. C'était Kasaï central, Kasaï et Tanganyika.
Et quid de la présence des donateurs dans cette mission?
Alors bien sûr, ils veulent voir l'impact du Fonds de consolidation de la paix en sigle, donc c'est le PBF. Donc eux, ce sont des gens qui viennent des sièges, soit de New York, soit de leur capitale. Ils veulent voir l'impact du Fonds de consolidation de la paix. Le Fonds de consolidation de la paix a investi à peu près 80 millions de dollars ces dernières années en RDC, donc ce qui est un montant assez important pour qui est focalisé sur la consolidation de la paix. Ça a été concentré sur quelques provinces et récemment, ça a été notamment concentré dans le cadre de la transition de la MONUSCO. C'est pour ça que le PBF a beaucoup investi dans les 3 provinces d'où s'est récemment retirée la MONUSCO, puisque en 2021 la MONUSCO s'est retirée des Kasaï et en 2022 du Tanganyika.
Vous avez fait allusion au départ de la MONUSCO dans quelques provinces. Dans quel domaine elle était active pour les Kasaï?
Alors d'abord, peut-être pour dire quelques mots sur la transition de la MONUSCO. La transition de la MONUSCO, ce n'est pas équivalent au départ des Nations Unies. La MONUSCO quitte, mais les Nations Unies restent à travers ses agences, ses fonds, ses programmes. Il y a 22 agences des Nations Unies qui opèrent en RDC, et de très nombreuses agences opèrent dans les différentes provinces, notamment ici à Chikapa.
Quel a été l'impact du projet PBF dans le Kasaï?
Donc, parmi les domaines où la MONUSCO était très active, par exemple ici, il y a le domaine de la justice, il y avait le domaine de la protection des civils, le domaine de la cohésion sociale, il y avait le domaine du DDR, donc du désarmement, des mobilisations des combattants et leur réinsertion, etc. Il y avait tout un nombre de thématiques. Dans le cadre de la transition de la MONUSCO, donc il y a une montée en puissance des agences du système des Nations Unies pour qu'elles puissent appuyer les autorités nationales, provinciales et locales au niveau des territoires à continuer les efforts et à consolider tous les gains qui avaient été faits.
C'est donc ce qui explique la présence du secrétaire général au plan dans cette mission.
Alors bien sûr, pour ce qui a trait au Fonds de consolidation de la paix, Nous travaillons avec notre tutelle qui est le ministère du Plan. La ministre d'État, ministre du Plan, est représentée dans notre délégation par le secrétaire général du ministère du Plan national qui est avec nous. Il y a un comité de pilotage national du Fonds de consolidation de la paix qui est présidé par la ministre d'État et moi-même. Donc ça, c'est au niveau de la tutelle générale. Et ensuite, bien sûr, on travaille avec tous les ministères concernés, le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur, le ministère des Droits humains, etc., puisque les Nations Unies travaillent toujours en partenariat avec les autorités. Alors aujourd'hui, j'ai posé la question à nos collègues qui sont basés ici sur l'impact, parce que c'est important d'avoir des activités, c'est important d'avoir des résultats, c'est important de faire des formations, c'est important de construire des bâtiments publics, c'est important, mais tout ça, c'est des résultats qui n'ont pas forcément de l'impact. Ce qui compte à la fin, c'est l'impact.
Bruno Lemarquis, merci.
Merci beaucoup, merci à tous les auditeurs de Radio Okapi, comme toujours.
Et c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi.